Mikolo hay,
mikolo ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny ho avy.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Mikul Hai, Mikul Niwavi. Aujourd'hui, nous allons apprendre la discipline histoire pour la classe de T9. Le thème de notre leçon est les relations internationales de 1945 à 1962. Je reprends. Les relations internationales de 1945 à 1962. Écoutez bien et prenez note. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. L'antenne est à vous, Madame Eliane.
Bonjour, chers auditeurs. Comme M. B va annoncer tout au début de cette émission, notre leçon a pour titre « Les relations internationales de 1945 à 1962 ». Pour commencer, qui peut nous rappeler les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale en une ou deux phrases? Maeve, tu peux nous bien rappeler les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale en une ou deux phrases?
Oui, madame. Le monde est détruit. Les destructions affectent les villes, les usines et les réseaux de transport. Plusieurs pays européens ruinés s'endettent auprès des États-Unis.
Bravo, Maeve, t'as bien répondu à la question. En 1945, l'Europe est à genoux. De nombreuses régions sont détruites et plusieurs millions de personnes sont mortes ou blessées. Applaudissons, Maeve. Bon, Maeve a dit tout à l'heure que plusieurs pays s'endettent auprès des États-Unis. Je pose la question maintenant à Lille. Est-ce que ce sont les États-Unis seuls qui pouvaient aider les pays de l'Europe ruinés par la Deuxième Guerre mondiale? Je reprends la question, Lille. Est-ce que ce sont les États-Unis seuls qui pouvaient aider les pays de l'Europe ruinés par la Deuxième Guerre mondiale?
Eh bien, il y a également l'URSS qui veut aider les autres pays de l'Europe.
Très bien, Lille. J'espère que tout le monde a trouvé la bonne réponse. Cette même ambition de dominer le monde va caractériser l'histoire de la relation internationale depuis 1945. Après la guerre, il y a cet esprit d'entente pour réorganiser le monde. D'où les différentes conférences tenues, par exemple à Potsdam. Il y a cette volonté d'apaiser les tensions qui ont provoqué la guerre, citant la création de l'ONU en juin 1945 à San Francisco, à la place de la STN. Pour juger les crimes et génocides pendant le conflit. Cependant, les différences idéologiques des États-Unis et l'URSS, leur volonté de se poser en modèle, les conduisent à s'opposer radicalement. Maintenant, je vous invite à bien écouter l'extrait de discours annoncé par Truman, car je vais vous poser des questions. La doctrine Truman. Je crois que la politique des États-Unis doit consister à soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement par des minorités armées ou à des pressions venues de l'extérieur. Je crois que nous devons aider tous les peuples libres à déterminer eux-mêmes leur destin. Ce que j'entends par un tel soutien, c'est essentiellement une aide économique et financière qui constitue la base de la stabilité économique et d'une vie politique cohérente. Discours du président américain Truman devant les deux chambres du Congrès américain le 12 mars 1947. Je reprends le discours. La doctrine Truman. Je crois que la politique des États-Unis doit consister à soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement par des minorités armées ou à des pressions venues de l'extérieur. Je crois que nous devons aider tous les peuples libres à déterminer eux-mêmes leur destin. Ce que j'entends par un tel soutien, c'est essentiellement une aide économique et financière qui constitue la base de la stabilité économique et d'une vie politique cohérente. Discours du président américain Truman devant les deux chambres du Congrès américain le 12 mars 1947. J'espère que vous avez bien écouté le discours. D'après le discours, quel était l'objectif des États-Unis? L'île?
Je pense que les États-Unis veulent aider économiquement et financièrement les peuples libres.
Bravo, Lille! Bien sûr, les États-Unis pensent que c'est leur devoir de venir en aide aux Européens, même s'ils ont leur libre choix. Voici un dernier texte pour vous. Écoutez attentivement. La doctrine Tchitanov. Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre, et plus nettement apparaissent les deux directions principales de la politique internationale de l'après-guerre, correspondant à la disposition en deux camps principaux des forces politiques qui opèrent sur l'arène mondiale. Le camp anti-impérialiste et démocratique. Une tâche particulière incombe au Parti communiste frère de France, d'Angleterre, d'Italie et des autres pays. Ils doivent prendre en main le drapeau de la défense nationale et de la souveraineté de leur propre pays. C'est au Parti communiste qu'incombe le rôle historique de se mettre à la tête de la résistance au plan américain d'asservissement de l'Europe. Rapport de Tchitanov, octobre 1947. Je reprends le texte. La doctrine Tchitanov. Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre, et plus nettement apparaissent les deux directions principales de la politique internationale de l'après-guerre, correspondant à la disposition en deux camps principaux des forces politiques qui opèrent sur l'arène mondiale. Le camp anti-impérialiste et démocratique. Une tâche particulière incombe au Parti communiste frère de France, d'Angleterre, d'Italie et des autres pays. Ils doivent prendre en main le drapeau de la défense nationale et de la souveraineté de leur propre pays. C'est au Parti communiste qu'incombe le rôle historique de se mettre à la tête de la résistance au plan américain d'asservissement de l'Europe. Rapport de Tchitanov, octobre 1947. De quoi parle le texte? Est-ce que tu peux répondre à cette question, Maeve?
Oui, madame. Le texte parle de l'existence des deux camps. L'impérialiste antidémocratique, Russie, et le camp anti-impérialiste démocratique, États-Unis.
Tu peux ajouter d'autres idées, Lille, sur le texte?
Bien sûr, madame. L'URSS pense qu'elle a aussi un devoir d'aider ses pays frères communistes.
Bref, les pays européens doivent choisir entre les deux camps des deux grands pays vainqueurs de la guerre. Ainsi, cette doctrine souligne qu'il faut résister au plan d'asservissement de l'Europe, c'est-à-dire protéger les pays communistes contre l'impérialisme américain. Et cette guerre idéologique, appelée encore « guerre froide », caractérise la relation internationale de 1945 à 1962.
Si vous me le permettez, j'ai une petite question à vous poser, Madame Eliane. Puisqu'il s'agit d'une guerre idéologique, donc il n'y a pas d'affrontement direct?
Une très bonne question, Monsieur Bive. C'est pourquoi on parle d'une guerre froide, car les deux grands s'interposent à travers ces pays satellites. C'est-à-dire que c'est à travers de ces pays que les deux pays se rivalisent et s'affrontent. Qui peut nous dire un exemple marquant la crise de la relation internationale? Lille?
En Europe, en 1949, à la suite du blocus de Berlin, l'Allemagne est divisée en deux États. À l'ouest, la RFA, alliée aux Américains, et à l'est, la RDA, alliée aux Soviétiques.
Merci beaucoup, Lille. Tu peux rajouter un autre exemple à Maeve?
Oui, bien sûr. En Asie, il y a la guerre de Corée de 1950 à 1953.
Très bien, Maeve. À cette époque, lors de la crise de Cuba, on redoutait que la Troisième Guerre mondiale va s'éclater. Maintenant, une autre question pour vous, chers auditeurs et les élèves ici présents. Quel est l'événement qui marque l'année 1953? Je reprends. Quel est l'événement qui marque l'année 1953? Lille?
C'est la mort de Staline qui a dirigé l'URSS.
Très bien, Lille. Le décès de Staline a-t-il un effet sur l'histoire du monde? Maeve?
Oui, et c'est la déstalinisation, c'est-à-dire que depuis la mort de Staline, l'URSS et ses pays satellites suppriment le régime politique mené par Joseph Staline.
Vous êtes très intelligente. Applaudissons-nous. Bien sûr, c'est la libéralisation du régime soviétique et l'abandon de culte de la personnalité. Depuis, la tension entre les deux grands vont s'apaiser.
Maintenant, j'invite Madame Eliane à donner un petit résumé pour cette période de 1945 à 1962.
Retenons bien alors que la rivalité entre les deux grands va donner naissance à la guerre froide. La guerre froide est une guerre idéologique entre les partisans de chaque bloc, le libéralisme et la démocratie d'une part, et d'autre part le communisme ou démocratie populaire. Ainsi, les pays satellites des deux grands s'affrontent directement entre eux et qui ont failli éclater la Troisième Guerre mondiale. En URSS, la mort de Staline en 1953 va changer cette situation avec l'arrivée de Nikita Khrouchtchev au pouvoir. Chers apprenants, maintenant, vous avez tous bien saisi qu'une guerre idéologique influe largement la relation internationale.
C'est ainsi que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.
Narainoteu.
Mikul hai.
Mikul niwaf.
Fandara nafkaran ministeran fanabeza pirenien. Wan klas tona fa yen. Katam klas fomaranana.
Mikul hai. Mikul niwaf.